pas la
bon,
plus
en
grande.
Fait, voilà, on peut,
vas-y, vas-y.
Peut commencer comme ça. Hein. Mmh. En fait, dans un premier temps, on se disait que ce serait bien qu'on vous donne la parole, parce qu'on est toujours DLA dans ces universités, on fait des prises de parole, on est un peu les expertes machin chose. Et donc, comme précisément ce qu'on veut faire, c'est une université décoloniale, ce serait bien qu'on renverse les hiérarchies, qu'on bouscule les hiérarchies et que, pour, au moins, vous sortez de l'expo. Nous, on l'a vu il y a déjà plus longtemps. On est moins fraîche que vous. On est moins fraîche en général. Enfin, moi, je suis moins fraîche. Je suis très fraîche. Et donc, du coup, si ça vous dit déjà de qu'on se parle entre nous de ce qu'on vient de voir, là, on vous donne la parole. Allez, hop.
Je sais sur l'expo Paris-Londres. L'expo Paris-Londres maintenant, puis après on va parler du lieu, du bâtiment lui-même et de plusieurs choses à propos du bâtiment. Mais d'abord sur l'exposition Paris-Londres, parce que quand on est venu, on a trouvé que c'était plus intéressant de proposer la visite de cette exposition plutôt que de la visite de l'exposition permanente ou temporaire, qui est aussi importante. Mais là, le Paris-Londres nous paraissait quand même assez... assez bien pour commencer, justement, parce que, juste un petit mot, comme vous le savez, on veut en fait les 4 séances de l'Université Décoloniser les Arts de ce semestre vont être autour du musée et d'inventer nous-mêmes notre propre musée après avoir vu un musée.
Et de, Ou de ne pas faire de musée.
Ou de
décider que. Bon,
mais si on voulait raconter l'histoire, nous, des migrations, on ferait comment? Donc, qu'on se pose la question pour ne pas rester simplement dans la critique. Pour ne pas rester simplement dans dire, voilà, ils n'ont pas fait ci, ils auraient dû faire ça. Nous, qu'est-ce qu'on ferait? Ou qu'est-ce qu'on ferait? C'est-à-dire peut-être de ne pas faire. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qu'on déciderait de faire? Voilà. Donc d'abord, dans un premier temps, l'exposition Paris-Londres, de ce qu'ont voté vos impressions, vos questions. Et puis ensuite, on passera au deuxième temps qui est autour du bâtiment, enfin de certains éléments du bâtiment.
Je veux bien commencer.
Oui.
Du coup, alors, parce qu'on est venus ensemble, on a eu, pareil, un peu de mal à comprendre le propos de l'exposition, en fait. On a dû même retourner relire le premier texte pour savoir qu'est-ce que les conservateurs ont voulu dire avec cette expo, enfin les commissaires, parce que, déjà, c'était entre le côté descriptif de comment la musique a évolué, mais de manière très, enfin, voilà, très neutre, pas de discours politique. En même temps, mais si c'était ce parti pris qui était, enfin, de montrer un peu comment les mouvements migratoires ont influencé la musique, on n'a pas compris pourquoi est-ce que y a quand même beaucoup de salles qui parlent en fait des groupes blancs de musique blanche, et on se demandait pourquoi avoir mis ça ici, notamment sur la partie contestataire, il y a toute la musique contestataire, les luttes, et puis après on a Gainsbourg ou les Beatles, enfin on a des parties, voilà, on comprenait pas pourquoi. Et sinon, ouais, on trouvait ça un petit peu aussi décousu, et c'est plutôt une incompréhension générale sur l'exposition, donc si vous avez des pistes de lecture, voilà.
En fait, on n'a pas senti ce cosmopolitisme parisien, je parle plus spécifiquement de Paris. Alors, moi en tout cas, c'était à peu près exactement la même chose, et j'avais du mal à sentir du coup finalement...
Bah, rapprochez-vous.
Alors... Du coup, c'est vraiment le plus difficile était finalement de comprendre ce cosmopolitisme. On a vraiment du coup l'impression qu'il y a une séparation entre les cultures, leur musique par quartier, et on n'a pas senti cette influence musicale qui soit très forte finalement à travers du coup les Arabes et les Français. Les Français.
De Paris, hein, toi,
voilà. Oui, je parle principalement de Paris. Ouais. Et c'est pareil du coup pour cette histoire d'émigration. Moi, je connais un peu l'histoire de la musique algérienne, et j'avais aussi l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu collées ensemble, et on ne voyait pas forcément la cohérence quand on parle de Égypte, Maghreb, Algérie. Je sais que la musique algérienne et kabyle est très centrée sur la question de l'exil et de la souffrance de l'exil, ce qui n'est pas forcément très cohérent avec la partie égyptienne. En fait, on est toujours du coup dans cette ce collage. On a du mal à la fin, on veut voir la finalité de ce collage, mais on a du mal aussi à le saisir. Et c'est vraiment très difficile à comprendre. Moi, je me suis dit, je reviendrai, je lirai beaucoup de choses pour pouvoir comprendre l'expo, elle est vraiment très dure à cerner. Mmh. Et le côté politique, on ne le sent pas. On veut parler à la fois de la hiérarchisation des immigrations, mais ça ne ressort pas tant que ça. C'est très décrié.
D'une certaine façon, rapidement, ça rejoint ce qu'on disait sur la question de l'orientalisme, c'est-à-dire qu'on prend, on met ensemble tout ce qu'on met sous le chapeau de l'orientalisme, même si les pays, les cultures et les traditions et les comportements ou les relations politiques avec le pays colonisateur ne sont pas les mêmes. Et donc, du coup, c'est effectivement, ça paraît
des danses orientales qui est collée au milieu de l'exposition, qui, sans contexte, on ne comprend pas trop ce qu'il fait là. Ouais. Je ne sais pas si d'autres se sont arrêtés dessus. Je me suis retournée, ok, en costume, d'accord. Mais c'est vrai que pour revenir sur ce qui a été dit précédemment, pour avoir vu il y a quelques années l'exposition Great Black Music, qui était à la Cité de la Musique, je ne sais pas si d'autres l'ont vu, où on revoit vraiment bien la genèse des différents styles de musique inspirés de la musique noire et donc qui sont nés aux États-Unis. Donc on voit vraiment l'histoire du gospel, du jazz, etc. Donc on a traversé à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Là, je trouve que ça manquait de lien, alors que, comme le disaient les filles, au début, on arrive... je ne sais même pas si je suis arrivée par l'entrée, tellement c'était construit d'une façon étrange. Je suis arrivée, il y avait les Beatles. Ensuite, il y avait un mur avec Sylvie Vartan. Ensuite, il y avait un plus plan, il y avait un diplôme... la robe de Sylvie Vartan, ok, super. Plus loin, il y avait un diplôme d'école de rock'n'roll, je ne sais pas trop quoi, décerné à Johnny Hallyday, j'ai pas compris. Et tout ça sans lien avec... j'ai pas vu d'artistes noirs ou immigrés qui étaient dans ces styles-là. Enfin, pour moi, c'était un peu
ils mettaient en avant « Salut les copains », là, l'espèce de...
Voilà. Hein,
et qui n'a rien à voir avec le thème de l'exposition,
exactement.
C'est ça, en fait.
Exactement.
Juste deux choses. Ceux qui sont derrière, qui n'entendent pas, vous pouvez vous mettre ici.
On
fasse vraiment un rond, parce que sinon, il y a de la place derrière nous, là. Il n'y a pas de raison.
Toute cette génération d'artistes français ou francophones, qui étaient belges, et qui, en fait, se sont inspirés d'artistes américains. C'était surtout ma remarque.
Oui, tu voulais dire quelque chose ?
Moi, j'ai vraiment pas compris, donc j'ai pas vu toute l'exposition, mais juste à l'entrée, donc... On voit une vidéo avec des personnes noires qui dansent et j'ai l'impression que ça fait un peu... c'est un peu pour abattre le chaland, après juste un tunnel. Et après, sans transition, sans aucune explication, on passe aux Beatles, à Salut les copains, à énormément de chanteurs, de groupes, de musique blanche, et sans expliquer à quel point le rock'n'roll a pu être, ou d'autres styles de musique ont pu être politiques, inspirés de mouvements, qui à la base était vraiment politique, était par exemple, il me semble, le blues, il me semble le gospel, enfin toutes les musiques qui sont noires à la base en fait. Et que toute cette partie politique et cette partie de influence par des personnes non blanches a été complètement effacée et vraiment j'ai pas compris la transition entre les deux.
C'est comme de la génération spontanée, on va dire. Ce n'est pas le cas.
Autre chose ?
Et je ne sais pas, est-ce qu'elle est pensée aussi pour un public qui est français et un public qui est étranger ? Enfin, quelqu'un qui ne connaît pas très bien du coup la culture française, on peut partir sur la base aussi qu'on ne connaît pas toutes ces stars françaises ou autres qui ont été très connues en France. Du coup, je ne sais pas aussi dans quelle mesure ils ont pensé aussi à contextualiser un peu pour des gens qui ne sont pas forcément français, qui ne sont pas nés ici et connus toute cette période-là. Du coup, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous connaissez tous ces gens, vous connaissez toute cette musique.
Faut se rapprocher un petit peu. Allez, venez.
Oui, il faut aussi te parler un peu fort.
En fait, elle dit, les critiques générales sont premièrement une sorte de déconstruction, pas de lien entre certains passages, premièrement. Donc, comment expliquer là la présence de Sylvie Vartan et tout ? sans la mettre en relation avec l'histoire de la naissance du rock'n'roll et de sa relation avec les autres musiques noires. Ça, c'est la première chose. La deuxième, autour des musiques dites arabes, danse orientale, elle faisait remarquer, d'autres gens, elle en particulier, dont j'oublie le nom, faisait remarquer qu'il n'y a pas forcément de relation entre la manière dont les Algériens à Paris vivaient leur musique, autour en particulier de la question de l'exil, et les Égyptiens, les musiques égyptiennes, recouvrant d'autres choses, et les Égyptiens n'étant pas forcément des immigrés en France. Bon, alors rapidement, enfin moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un souvenir, hein, je suis dans le souvenir, je ne suis pas dans l'analyse, mais là, le 18e arrondissement, le quartier de la Goutte d'Or, quand on y passait en 1970, etc., vous n'étiez pas né, dans tous les restaurants, cafés, etc., c'était essentiellement Oum Kulthoum qu'on entendait chanter. Et donc la présence de la musique égyptienne, ils l'ont peut-être prise là, comme
mais
ça, vue comme ça.
Sans la tenue, sans la danse du ventre, parce que si on regarde aussi le parcours de Oum Kulthoum, c'est complètement différent des cabarets égyptiens. Oui. On a aussi une autre musique populaire. Ouais. Et c'est pareil pour Abdelhalim Hafez ou Al-Atrash. Mm-hmm. Effectivement, ça revient énormément dans les cafés maghrébins ou la culture maghrébine. Mais c'est vraiment à extraire de notre culture égyptienne, de la danse du ventre. Et, enfin...
Je rebondis sur ce que tu dis. Je peux parler fort. Ça, tu sais. Voilà, donc tu dis on entendait Oum Kulthoum dans les années 70. Je vais parler en souvenir d'une famille algérienne dans les banlieues provinciales. On entendait Oum Kulthoum dans les quartiers populaires. On entendait Farid Al-Atrash. On entendait Abdelhalim Hafez. Et on entendait Johnny. Et mon cousin, qui avait 10 ans de plus que moi, avait tous les albums de Johnny. Et mes frangines écoutaient les Beatles. Et mon cousin écoutait les Stones. Et on entendait la Motown. Et je ne vois rien de ça dans ce musée. Ça me fait penser à un musée que j'ai visité il y a quelques années, qui s'appelle le musée Peugeot, où mon père, algérien, a bossé pendant 30 ans. Et quand j'ai visité ce musée, dans les photos, il n'y avait pas une tête d'arabe et il n'y avait pas une tête de noir sur aucune photo. Dans l'hommage qu'on rendait au monde ouvrier. Donc là, ça, je l'ai visité, j'ai survolé. Et j'ai pensé à des petites anecdotes, parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on dit wesh, alors wesh, on s'imagine que c'est tout récent, mais mon voisin pauvre français, Jean ou Jean-Marie ou Christophe, pour faire rock'n'roll, pour faire branchouille, pour faire tendance, il parlait algérien, il disait wesh, wesh. Et tout le monde était rock'n'roll et tendance et branchouille, ce que je ne vois pas dans cette exposition. En fait, il n'y a aucune photo de fan. Il y a Sylvie Vartan, il y a Johnny, il y a machin. Mais on ne voit aucune photo de noir ou d'arabe qui aime le rock'n'roll. Voilà. Et pour finir, ça parle d'une colonisation culturelle américaine.
C'est ça. Moi aussi, ce qui me semble aussi, c'est le fil politique. Parce que Oum Kulthoum a été écouté aussi à cause de Nasser et de la révolution égyptienne. Ce n'était pas simplement la musique égyptienne. C'est ce que Nasser représentait pour le monde arabe à l'époque et pour la révolution. Il y avait la guerre d'Algérie. Donc il y a aussi la relation entre la chanson et les mouvements sociaux, les mouvements culturels, qui ont toujours été accompagnés de chants. Toujours. Et dans l'histoire, le chant est une prise de parole, on peut dire. C'est une prise de parole. Et ça, je trouve que ça ne se sent pas. Le côté prise de parole par le chant, d'affirmation, d'une présence, d'une communauté, puis d'une parole aussi, d'une parole. En général, c'est la liberté, hein, c'est vraiment liberté. Et donc ça, justement, le chant presque comme manifeste politique, pas nécessairement parce qu'on dit des phrases politiques, hein, mais parce que justement, et puis parce que chanter, c'est donner de la voix. C'est faire entendre la voix, c'est justement c'est ne pas être mis au silence.
Je vous interromps un instant. Fela, ça me fait penser à ça. Fela, de vrai, je crois qu'il n'y est pas, fait là. Il y est, alors je n'y ai pas, oui, mais bon, plus mis en avant, parce que le fait là, pour certains, et on a juste vu son fils, qui, enfin ses enfants font de la musique, mais le prince, fait, c'était, comme vous venez de dire, ça me fait penser, ses chants, c'était de la pour soutenir sa contestation politique. Mais je ne l'ai pas vu. Enfin, il y est, mais je l'ai...
Même s'il y a des personnes qui sont représentatives, moi, ce que je disais, c'est qu'en fait, on est dans le musée de l'émigration nationale. Les immigrés, leur chance a été la question de s'affirmer aussi, et que ça se sent pas. C'est ça. Donc, ils pourraient ne pas avoir fait là, c'est ça que je veux dire. La question n'est pas tellement le choix des personnes, c'est que la manière dont le récit est fait, qui fait que finalement, on a... des tas de chanteurs, des chanteuses comme ça, qui, comme vous dites, des choses mises à côté, une robe ou je sais pas quoi.
Bienvenue au musée. Bienvenue au musée.
Mais
je pense qu'il part aussi.
Ah bon ? Vous êtes sûr ?
Ça y est, c'est fini.
C'est fini ? Bon.
C'est fini. Ce serait dommage qu'on se déplace et qu'ils nous rejoignent ailleurs.
Qu'ils nous suivent.
Ouais.
Mais elle, là, la RG, là, elle est quoi ?
Qu'est-ce qui se passe encore ?
Est-ce que... Mais elle est venue me voir tout à l'heure, on va dire, ça c'est autorisé, ça ?
Pourquoi ?
Mais c'est une activité qui est dans le cadre des journées...
Oh, Seigneur !
Moi, je trouve que finalement, dans le conservatoire
d'ici, entre guillemets, professionnel, avant de se positionner, enfin, moi, je n'ai pas à le faire, je suis... Ouais. Mais quel est leur intérêt, finalement, d'avoir...
Mais moi, je pense qu'on ne peut pas se mettre à la place des commissaires. Ils font ce qu'ils ont à faire, si vous voulez. Enfin, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ce que je veux dire, c'est moi, je ne sais pas qui ils sont. Je ne peux pas discuter avec les commissaires. Ouais. Ce que je voudrais qu'on voit, c'est que...
Il n'y a pas d'intention.
Quelles que soient les intentions, quelle est la manière dont le récit et les objets mettent en... la manière dont les choses sont disposées et les objets sont disposés mettent en scène un récit. Et donc... qui se passe. Ça y est, ça commence, hein, je vous assure. Vous savez, on a très gentiment informé la direction du musée qu'on venait. C'est libre, hein, c'est un établissement public. Alors au début, ah bon, etc. Et puis alors, il y a 2-3 jours, c'est « Mais vous allez faire quoi ? Mais exactement quoi ? Mais vous venez pourquoi ?» Alors, bah, c'est un musée, hein, on vient voir le musée, quoi. Hein, bon, il y a une expo,
on
vient voir
le
temps. Hein, bah voilà. Bon. Et puis, oui, mais exactement quoi ?
Eh
bien, voilà, on vient voir. Quoi. Non, mais vous allez faire quoi ? C'est absolument incroyable. Tout de suite, l'inquiétude est là. On voit qu'évidemment, tout de suite, ça se met en scène. Bon, donc on va continuer comme si ça n'existait pas. Donc, la question, c'était l'exposition et on en a parlé. Je rappelle que ce qu'on veut faire toutes ces 4 séances là, c'est de parler, de partir de cette visite qu'on aura faite, la prochaine séance d'en parler, et puis après d'imaginer notre propre musée, d'imaginer ce qu'on ferait, de ne pas en rester dans la critique et de ne pas rester dans pourquoi ils ont fait ça, ils ont oublié ça, ils n'ont pas mis machin, ils n'ont pas mis machinette, tout ça, parce que ça, on est collé là-dedans sans fin. Et il faut qu'on sorte de ça. Parce que du coup, on est mis dans leur cadre. Et puis, on est coincé là-dedans et on essaye d'ajouter peut-être une petite fenêtre là, ben, si on mettait une fenêtre là ou si on mettait une porte là. C'est plutôt d'imaginer notre propre espace. Et donc, de voir ce que nous, si on avait raconté cette histoire, on la raconterait comment. C'est ça qu'il faut mettre notre imagination en marche, vraiment. Et donc faire cet effort-là, de se libérer de ça, et de dire, mais qu'est-ce qu'on ferait, finalement ? Qu'est-ce que si on racontait l'histoire des migrations, si on racontait, par exemple, on le ferait comment ? On commencerait où ? On raconterait quoi ? On mettrait quoi en avant, moins, etc. C'est ça, c'est là-dedans qu'il faut rentrer. Donc ça, ici, c'était vraiment pour lancer un peu cette discussion. Et on trouvait que ce musée était le plus intéressant pour faire ça, plutôt que le Branly ou le Louvre, parce qu'à la fois, c'est l'ancien musée des colonies, et c'est là que l'État a choisi de mettre le musée de l'histoire de l'immigration. Donc, il y a quand même un tas, hein, on peut dire un nœud, enfin plusieurs gros nœuds, beaucoup plus même, on pourrait, pour nous, enfin pour notre question décoloniale, que le musée du Louvre, même si on peut décoloniser le Louvre, évidemment, ou même le Quai Branly, qui est quand même, se présente comme le musée des autres cultures, et il y a plein de choses à dire. Mais là, c'est un peu notre histoire qui est racontée, ou qui est, veut être racontée. Donc c'est pour ça qu'on a pensé que c'était plus intéressant. En fait, parce qu'on avait pensé à d'autres musées, mais on s'est dit non, mais celui-là, c'est quand même, il raconte tellement de choses, à la fois par son architecture, par ce qu'il raconte, et par le fait que ça a été choisi pour mettre le musée de l'immigration. Bon. Alors, on va peut-être laisser les négociations se poursuivre, les pauvres. Alors, du coup, je vais commencer un petit peu à vous parler pour le musée lui-même. En fait, quand on sortira sur la gauche, il faudrait regarder la maquette et le dessin de cette exposition. Parce que vous verrez comment c'était immense. C'est, je veux dire, tout a disparu, évidemment, on ne le voit plus, mais on verra, et ça, c'était juste au début. Et la Minerve ou l'Athéna que vous voyez au début, la déesse, elle était là. Elle était à l'avant, juste devant la porte, là. Et elle représentait la France, hein, celle qui apporte la paix et la prospérité. Et elle était en haut des marches. Maintenant, ils l'ont mise là-bas. Et donc, une des choses, là, pour ce qui nous, quand on va passer au bas-relief, une des choses que je voudrais attirer, on ne voulait pas tellement parler des fresques qui sont là, mais une des choses sur laquelle je veux attirer votre attention, c'est que sur ces fresques, il y a des blancs. Beaucoup de blancs et tout se passe. Sur les bas-reliefs, il n'y en a pas.
Dehors.
Sur les bas-reliefs, il n'y en a pas. Donc, ça, c'est déjà intéressant. Il y a la France au centre, on verra, hein, dehors, sur les bas-reliefs, mais elle n'est pas, c'est pas du tout comme ça. Et donc, c'est très intéressant parce qu'à droite, vous avez l'Afrique et puis vous verrez des Outre-mer et à gauche, l'Asie et d'autres Outre-mer, ce qu'on appelle les Outre-mer, et vous n'avez pas de blanc ni de blanche. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce qui est représenté là-bas ? Qu'est-ce qui est différent ? Pourquoi les bas-reliefs ? Les bas-reliefs qui sont absolument monumentaux, c'est les seuls de ce genre qu'il y a en France. Et c'est pour ça qu'ils sont intéressants. C'est les seules choses qui restent de ce genre en France. Des bas-reliefs aussi immenses, aussi grands, ce bâtiment, c'est exceptionnel. Donc ce bâtiment, il est une archive, c'est une archive coloniale, du monde colonial, en lui-même.
Vous devez savoir d'ailleurs qu'il y a deux jours, il y a eu un article sur une émission France Culture autour du fait que le bâtiment n'était absolument pas entretenu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a même des parties qui tombent, il y a des bouts de ciment qui s'en vont, etc. Et que donc c'est une vraie question de pourquoi ce bâtiment qui fait partie du patrimoine historique français et qui donc raconte quelque chose n'est pas entretenu. Est-ce que à terme c'est que on voudrait bien que cette histoire ne soit plus aussi visible, s'écroule d'elle-même.
Le bâtiment s'écroule de lui-même. Et du coup, ça pose aussi la question dont on pourra discuter à la prochaine session, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on a un bâtiment comme ça ? Qu'est-ce qu'on fait d'un tel bâtiment ? Est-ce que du coup, on le considère comme une archive coloniale qu'on viendrait visiter, comme on va lire des archives, aux archives coloniales, mais alors ça serait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait d'un tel bâtiment qui est aussi énorme et aussi... Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on justement le préserve ? Est-ce qu'on dépense de l'argent pour le préserver ? Ce sont des questions qu'on doit se poser. L'État fait ce qu'il a à faire, mais nous, qu'est-ce que nous ferions ? Qu'est-ce que nous ferions du bâtiment colonial, du musée des colonies, qui est le bâtiment construit pour l'exposition internationale coloniale de 1931 ?
les frais du musée dépendent entièrement du ministère de la Culture. Il est géré par quel instance?
Ben, il est partagé entre le ministère de l'Éducation, le ministère de la Culture, le ministère de... j'ai dit l'Éducation?
Oui, l'Éducation.
Et puis un autre que j'ai oublié.
Mais, voilà. Mais de toute façon, c'est si vous ne laissez pas...
Par partie.
Oui.
Le bâtiment, par exemple, les gens qui dirigent ici n'ont pas la charge du bâtiment. Ils n'en sont pas, ils sont pas responsables du bâtiment. Donc, la charge est répartie entre plusieurs institutions, ce qui rend d'ailleurs les choses compliquées.
Mais donc la première chose, parce qu'on va passer après au bas-relief, parce qu'on voudrait aussi parler du monument en face, qui est très intéressant, et qui est presque incroyablement intéressant, parce que ce qu'il cache complètement. On voit Mission Marchand, tout ça. Le Marchand, je vous raconterai son histoire, c'est un assassin, c'est un meurtrier absolu, et dont on ne dit rien, on ne sait pas. Il y a un monument à son nom, il y a un pont à son nom, il y a des rues à son nom. Et c'est absolument un assassin. C'est absolument un assassin. Donc sur les bas-reliefs, on va en parler maintenant, puis on sortira, on les regardera. Gertie aussi a dit quelque chose. Moi, ce que je voulais dire, c'est quand on est venu les voir, et on les voit comme ça, mais on ne s'attarde pas suffisamment. Donc le sculpteur qui les a faits, et il les a faits en 2 ans. Hein, la commande est passée, il a pris 2 ans pour les faire. Et il était un sculpteur très...
Il était un sculpteur
très connu, très connu, qui a fait aussi le palais de Tokyo, le bas-relief de... Si vous allez au palais de Tokyo, c'est lui qui les a fait. Il a fait aussi le monument aux résistants du Mont Valérien. Donc, il a été vraiment... C'était vraiment un sculpteur très connu. Et alors, ce qui est écrit, c'est « À ses fils qui ont étendu l'empire de son génie et fait aimer son nom au-delà des mers ». Ça, le bâtiment, hein. À ses fils qui ont étendu l'empire de son génie. Alors, l'inspiration, vous verrez, c'était... En fait, le sculpteur, il avait des modèles vivants. Hein. Il y a quelques photos, on voit des... Il a des modèles de femmes noires nues, et donc dont il va s'inspirer pour les représentations. Je parle des bas-reliefs, hein, je ne parle pas des fresques ici. Ou alors de dessins qui lui sont rapportés par des scientifiques et où on voit l'importance qu'a eu la botanique et l'ethnographie dans la représentation coloniale. Et la botanique a été très, très importante. On voit l'importance des plantes, de la représentation des plantes et des richesses. Donc, c'est vraiment très, très important. Et donc, les bas-reliefs, vous verrez, c'est vraiment le lien entre richesse, accumulation, capital, mais aussi, vous verrez, l'exploitation des corps. Tous les corps sont au travail. Tous les femmes et les hommes qu'on montre sont en train de travailler. Hein, personne n'est en train... Là, vous voyez des femmes à Langui, dehors, c'est tout le monde est au travail. Hein, tout le monde, c'est vraiment la question du travail. Et donc, c'est intéressant, c'est vraiment l'extraction des richesses. Hein, il y a tous les noms des richesses. Alors, on voit comment... en fait, ça a été important pour l'Empire de représenter des corps. Pas seulement des plantes, des richesses, mais des personnes. Hein, que ce soit, on peut penser aux os humains, mais les cartes postales, le cinéma, la photographie, les bas-reliefs, les fresques, tout était, il fallait représenter des corps au travail, pas simplement donc des paysages exotiques, il fallait aussi représenter les personnes. Ça a été très, très important. Donc, en fait, même les richesses étaient importantes, de montrer les richesses que l'Empire apportait à la France, mais aussi que les personnes que la France mettait au travail, et que le travail était un processus de civilisation. Pour la colonisation. Donc, et que sans, évidemment, sans... De toute façon, c'est le travail de ces personnes qui permet l'accumulation de richesses. Ce n'est pas parce qu'il y a de la canne et du sucre, parce que sinon, il faut bien quand même qu'il y ait des gens. Hein. Vous verrez aussi que c'est très encyclopédique, les bas-reliefs. Il y a une accumulation de choses. Je veux dire, c'est comme s'il ne fallait rien oublier, la fleur, la plante, l'animal qu'il y a. Il y a une incroyable accumulation. Vous verrez d'ailleurs... sur l'aile là, donc côté ce qu'on appelle Afrique, vous avez autant le canal du Mozambique, Madagascar, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Gabon, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Soudan, l'Oubangui, le Congo, le Tchad, l'océan Atlantique. Vous voyez, c'est vraiment une accumulation de lieux. Et les produits agricoles, vous verrez où ils sont soit sculptés, soit mentionnés. Vous avez le riz, les fruits, les pommes de terre, les céréales, les vignes, les raisins, les ananas, les arachides, les bananes, le café, le cola, l'huile de palme. Vous avez des moutons, des dromadaires, des éléphants, des gazelles, des perroquets, des singes, des lions, des rhinocéros, des dauphins, des crocodiles, des poissons, des oiseaux, on ne sait même plus où on en est. Pareil du côté de l'Asie. Alors, ce qui distingue l'Afrique de l'Asie, vous verrez, c'est que l'Asie a une colonne culture. Il y a quand même de la culture, apparemment. Essentiellement bondé les Bouddhas, évidemment. Mais voilà. Et alors là, c'est pareil. Il y a aussi des poissons, des oiseaux, des coquillages, des anguilles, des vers à soie, des tiques, des buffes, des éléphants, des paons, des gazelles, des crabes, des singes, des cerfs, des serpents. Enfin, on ne sait plus où on en est. Ce qui est intéressant aussi dans la c'est monumental, c'est les seuls bas-reliefs de ce genre qui existent en France. Et l'architecture aussi du bâtiment, c'était un peu brisé avec le classicisme français. Ça évoque des bâtiments, des temples. Ça évoque un temple grec, comme ça, un plat. Donc c'était un peu brisé avec ça. Et alors vous verrez, c'est quand même le style des représentations est un style qu'on pourrait dire égyptien. C'est-à-dire tout le monde est mis de profil. Tous les personnages sont représentés de profil, comme dans les bas-reliefs égyptiens. Mais en même temps aussi, il y a une accumulation, une profusion de plantes, animaux et autres humains tous ensemble. Et ça évoque les temples hindous, les temples khmers. Donc on voit aussi le côté voyage, exploration qui revient ici pour alimenter l'imagination des sculpteurs. Donc c'est vraiment, enfin ce sculpteur-là, c'est une appropriation culturelle de forme pour la France. Et en même temps,
on la voit aussi beaucoup dans les deux bureaux.
Oui, dans les deux bureaux.
Vous pourrez aller visiter quand vous aurez le temps.
Et lire le petit cartel.
Excuse-moi.
Alors, la France qui est au-dessus de la porte d'entrée, vous verrez, c'est une femme à la poitrine nue, bien costaud. C'est la fécondité. C'est la fécondité. Et il y a écrit « Paix et liberté » au-dessus d'elle. Et vous avez deux déesses romaines à côté. Il y en a une, c'est Cérès, qui est la déesse de l'agriculture. Et l'autre, qui est Pomone, qui est la déesse des fruits. Donc, vraiment, c'est la question de la fécondité, de la profusion. Et il y a un énorme taureau qui est là, donc il y a fécondité et virilité, mais c'est aussi peut-être le taureau Zeus déguisé en taureau qui viole l'Europe. Il n'y a aucune mention des agricultures locales, des techniques locales, tout est absolument tourné vers la France. Vous verrez que les Noirs sont pratiquement systématiquement nus, les Asiatiques non, mais les Asiatiques sont un peu plus figés, vous verrez, dans leur représentation. Donc, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que quand le musée des colonies ouvre, au moment où il y a l'exposition, c'est aussi un an avant une nouvelle loi sur l'immigration qui est votée, sur comment on va faire contrôler l'entrée des migrants en France. On est en 31, 32 déjà. Et en fait, quand le musée de l'histoire nationale des migrations est inauguré par François Hollande le 15 décembre 2014... Il a été ouvert en 2007, mais il n'a pas été inauguré. Vous le savez, inauguré très tard. Il va parler de la migration, lui, comme d'une force. Il faut, je cite, « rendre aux immigrés la gloire, la place qui leur revient dans l'histoire de France ». Et en fait, l'année suivante, c'est l'année du débat sur la loi sur l'immigration, en 2014. Donc les liens, il y a comme un lien, on pourrait dire. C'est comme si chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe au musée, il y a un débat sur l'immigration, tout en disant qu'on célèbre les musées. Donc ça, c'est vraiment pour les bas-reliefs. Je vous parlerai ensuite du monument marchand, qui est vraiment, pour moi, encore plus intéressant que le musée, dans la célébration d'un assassin et vraiment d'un meurtrier. Mais on le fera dehors parce que là... Mais là, j'ai aussi quelque chose à dire sur les bas-reliefs.
J'ai perdu mon papier, je ne sais pas, il était là. Voilà. Quelqu'un qui m'aime, sans doute l'un des gardes est parti avec. Donc, j'ai gardé, parlé davantage des départements d'outre-mer.
Oui.
Voilà, parce que sur le flanc gauche du bâtiment... totalement excentré, donc on est en face, vous allez regarder à gauche par là, totalement excentré se trouve la Guadeloupe, Marie-Galante, la Martinique, plus excentré encore la Guyane, qui est totalement coincée contre le cadre de la Grande Porte. À la droite, sur le même côté de la façade, se trouve la Réunion, bien qu'elle soit rattachée à l'Afrique. Donc c'est étrange parce que toute l'Afrique est par là. La Réunion, qui devra se trouver de l'autre côté, est rapprochée des dômes de la côte atlantique. Et donc c'est assez signifiant déjà. C'est déjà assez parlant. Moi, je me suis demandé pourquoi une telle place avait été accordée à Marie Galante. Alors, la Guadeloupe, c'est l'île principale. Marie Galante est considérée comme une dépendance de la Guadeloupe. Elle est bien plus petite. Simplement, ce qu'il faut observer là, Françoise disait que tout le monde est au travail. Eh bien, vous remarquerez que Marie Galante n'est pas au travail. C'est-à-dire que la femme qui représente Marie Galante est allongée, un peu alanguie, elle a la tête en arrière, comme ça, elle est couchée, elle a une petite jupette. Par-dessus sa petite jupette, il y a quelques feuilles qui sont sculptées pour masquer son sexe, qui devrait normalement être déjà masqué par la jupette. Mais une autre chose, c'est qu'elle est, elle est nue. C'est-à-dire que les autres femmes, elle est seins nus, les autres femmes de Guadeloupe et de Martinique, etc., qu'on montre avec de la canne à sucre sur la tête, etc., c'est essentiellement autour de la canne à sucre, sont habillées. Et Marie Galante est dévêtue. Donc, pour moi, ça renvoyait à cette image des femmes africaine, exotique, alanguie, tout ce qu'on peut dire à l'époque et encore aujourd'hui sur l'exotisation du corps des femmes noires. Alors moi je voulais vous dire simplement aussi que donc 1931 c'est la date. On avait dit qu'on allait regarder aussi l'ensemble du plan de l'exposition coloniale qui se trouve dehors, là, à côté de l'entrée. 1931, c'est une exposition coloniale, mais ce n'est pas la première. C'est la première grande comme ça, mais dans d'autres villes, qu'il s'agisse de Rouen. Rouen, en 1896, il y a déjà une exposition de corps de noirs avec des cases, etc., etc. Marseille, en 1922. Et ensuite, après 1931 et tout ce qui est ici et qui se trouvait dans tout le quartier, une partie a disparu, Vincennes, etc. Après 1931, il y a d'abord d'autres tentatives de faire des expositions, mais il y a deux salons de l'outre-mer, cette fois-là, deux salons d'outre-mer qui vont avoir lieu et qui sont coachés par le ministère des colonies. D'accord ? Alors, je vous ai copié deux petits textes que ce ministère des colonies présente, dont il se sert pour parler de la Guadeloupe et de la Martinique. Et simplement, je voudrais juste que vous me disiez ce qui vous saute aux yeux. D'accord ? Alors, le premier texte, c'est sur la Guadeloupe. Christophe Colomb aborde à la Guadeloupe dans la baie de Capesterre le 4 novembre 1493. La Guadeloupe était alors habitée par les Caraïbes. Point virgule. La période caraïbe cesse vers 1640. Les dates essentielles de l'histoire de la Guadeloupe sont 18 juin 1635, prise de possession par Charles Liénard de l'Olive. 1648, occupation des Saintes, de Marie-Galante, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, partagée également entre France et Hollande. 1666, 1691, 1703, 1744 à 1748 et 1756, attaque des Anglais. Premier Empire, les corsaires guadeloupéens s'illustrent. 6 février 1810, capitulation, restitution de la Guadeloupe au traité de Paris. Enfin, le 17 juillet 1816, retour définitif de la Guadeloupe dans le sein de la France.
C'est ça qui me gêne, moi.
Le rétablissement de l'esclavage par Napoléon, qui n'est pas...
L'esclavage n'est pas abordé. Le mot n'est pas dit. Le mot n'est pas dit.
Jamais. Jamais. Qui est choquant. Et la période caraïbe cesse, comme si, bon, ils étaient là. Voilà.
L'Empire a chuté.
C'était l'invasion impérialiste, on va dire.
C'est un assassinat. Ils ne seront jamais impérialistes, quand même. Mais qui disent quand même qu'ils ont été... Voilà. d'autant qu'ils ont été tués, d'autant qu'il y a eu prise de parole de comment il s'appelle encore ? L'abbé
Rénal.
Les Guadeloupéens, ils parlent de qui ?
Des Caraïbes. Avant, on était
appelés
Caraïbes.
Les corsaires Guadeloupéens.
Ah oui, les corsaires Guadeloupéens, c'est pas des Noirs. Hein.
Non, c'était, oui,
voilà, c'est ça. C'était des pirates.
Il y a peut-être eu des corsaires, hein, parce qu'il y a eu des Noirs parmi les corsaires.
Il y a eu des
hein.
Noirs parmi les...
Oui, je veux dire, quand on lit Marquis Redeker, il y a eu des Noirs dans les corsaires.
Et des
Noirs dans les marins. Et notamment dans les équipages où il y avait des Noirs, certains corsaires ont attaqué les bateaux négriers pour libérer les captifs. Et il y a une histoire aussi de corsaires noirs. Je veux dire, les corsaires, ce n'est pas simplement les films qu'on a vus, ou je ne sais pas, Pirates des Caraïbes.
Je ne pense pas qu'eux...
Non, c'est ça que je voulais dire. Non, bien sûr.
Pour la Martinique, c'est pareil, hein, je peux vous le lire, mais c'est même pas la peine, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Donc, absence totale de l'esclavage, et il faut pas perdre ça de vue, parce que cette absence de l'esclavage est l'une des clés de la compréhension de pas mal de choses aujourd'hui, d'histoire de l'immigration, mais aussi du rapport, de ce rapport de silence qu'entretient la France avec son histoire.
Justement, il y avait quelqu'un qui présentait l'histoire de l'immigration à la sortie de l'expo, et donc ils ont fait une carte de l'empire colonial en 1931, et ils ne mentionnent pas la Guadeloupe et la Martinique. Et quand je lui demande pourquoi, est-ce que c'est une question de taille ? À demi-mot, il me dit oui, mais c'est quand même embêtant.
Est-ce qu'il y a la Nouvelle-Calédonie ? Est-ce qu'il y a les terres du Pacifique ? C'est l'effacement sur les cartes
qui
fait que ça efface aussi. Je veux dire, après, quand vous dites aux Français qu'il y a encore des colonies, ils disent mais non, mais il n'y a pas, il n'y en a plus. Ça, c'est vraiment, oui, cet effacement. Mais je me souviens que, juste pour revenir en arrière, quand il y a eu les réunions du musée de l'immigration, avant même qu'il s'ouvre, il y avait eu des réunions sur quelles sont les populations qui vont entrer. Hein. Et il y avait eu des questions sur est-ce que, du coup, les populations d'outre-mer font partie de cette histoire ? Non. On m'a répondu non, clairement. Il y avait deux arguments, parce qu'ils m'ont dit à un moment donné, là on s'intéresse aux choses qui se passent d'État à État. Vous voyez, bon, par exemple, l'État italien avec l'État français, Et alors, je leur ai dit, dans ce cas, par exemple, on peut laisser tomber l'esclavage, mais dans ce cas, les engagés, ce sont des accords d'État à État, puisque c'est un accord entre l'Angleterre et la France, qui fait venir ce qu'on appelle les coulis aux Antilles et les Malbars, la Réunion, dans le Saint-Étienne. Et là, il y a eu un espèce de silence, et puis c'est passé à autre chose. Mais donc, il y avait vraiment une volonté de ne pas parler de ce qu'on appelle les Outre-mer. Parce que, justement, ça posait la question du colonialisme aujourd'hui. En fait, la poursuite de la colonialité, comme on dit, aujourd'hui. Alors que si on choisissait les migrations, comme on dit, postcoloniales, ça voulait dire que, effectivement, il y avait eu l'Empire, mais enfin, maintenant, c'était terminé. À partir du moment où on faisait rentrer Guyane, Nouvelle-Calédonie, Terre du Pacifique, Mayotte, Martinique, Guadeloupe, Réunion, on parlait à la fois de l'esclavage, on était obligé de parler de l'esclavage, et d'aujourd'hui, les Haïtiens en Guadeloupe ou les Dominicains, les Brésiliens et les gens du Suriname en Guyane, les Maorés et Comoriens à La Réunion, et Malgaches, etc., etc. Ou là, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a une énorme migration africaine à Mayotte, hein, puisque ceux qui ne veulent pas passer par la Méditerranée passent aussi par là. Donc tout ça s'efface, si vous voulez, et que du coup... la France réapparaît comme un espace d'accueil. Hein, d'accueil, alors bon, on peut dire parfois de temps en temps que ça ne s'est pas très bien passé, mais enfin, c'est quand même l'accueil, quoi. Et donc,
mais si vous regardez, par exemple, quand vous entamez la montée de l'escalier, l'histoire commence à 1789. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, l'histoire commence à 1789. Par conséquent, toute cette histoire de l'esclavage, déjà...
Est effacé.
154 ans, de 1635, qui est la date où Colbert décide d'envoyer coloniser ces pays, de 1635 à 1789, 154 ans sont effacés.
Et l'Afrique.
Et quand vous montez dans dans l'exposition. Si vous avez vu parler de l'histoire des migrations, par exemple, du Bumidome, etc.
C'est juste une BD.
Il y a un extrait de BD.
Où sont passés les documents officiels, les textes officiels?
Le Bumidome ne fera pas partie de l'histoire de l'immigration.
Parce qu'ils sont français.
Officiellement. Oui, puis parce que...
C'est un peu ce qu'il m'a dit.
Parce
qu'il estime qu'ils sont français.
Mais non, mais lui, il dit n'importe quoi, c'est un scandale.
Pas seulement, hein, parce que...
On a l'impression que ça commence à un instant T, on ne sait pas comment ces gens sont arrivés. On a l'impression que ce sont les premiers qui sont arrivés là, alors que souvent, il y en avait beaucoup qui étaient là avant. Enfin, on a l'impression d'une bulle dans le temps, et on ne voit pas d'où tout ça vient. C'est complètement hors sol, en fait, dans l'Expo Paris-Londres.
C'est pour ça que ça nous pose les questions de nous, quand on imagine, à quel temps, quels sont les temps qu'on veut prendre, quels seront les espaces qu'on choisirait, on partirait de quoi? Puisque là, on voit que, en fait, quand on fait un point de départ, on fait un choix. Partir de là, on pose un cadre. Je veux dire, c'est pas... On est en train de dire quelque chose. Donc ça pose toutes ces questions et c'est extrêmement important parce que l'air de rien, vous montez l'escalier, vous voyez, je ne sais pas, le public voit 1789, bon ben voilà, c'est normal. On ne va pas se poser la question. Vous voyez, il y a une espèce de présentation, une naturalisation d'un discours. C'est naturellement posé, donc on ne va pas comme ça, tout le monde n'essaie pas toujours de constamment contester. Et donc c'est la manière dont ça glisse, c'est ça qu'on veut voir, la naturalisation d'une histoire qui masque et qui.
Ça met l'immigration dans une espèce de grande histoire d'humanisme. Ouais. Parce que 1789, c'est ça, c'est la Révolution française, les droits humains, etc., etc., les Lumières, talada. Donc forcément, la question de l'immigration entre là-dedans et positionne la France à un endroit de générosité.
Et tout ça sans même parler des débats qui ont eu lieu pendant la Révolution française sur la question de l'esclavage. Parce que là, du coup, ça pourrait aussi perturber ce discours-là, qui, la force des esclavagistes au moment même de la Révolution française, qui entrave la mise en place d'un décret. Enfin, tout ça pourrait justement compliquer cette histoire, la perturber un peu. Juste, moi, je voudrais faire une parenthèse, parce que ça m'est traversé l'esprit quand on a parlé de rétablissement de l'esclavage, et parce que je fais un peu de promotion.
Tu vends un livre ?
Non, le 17 novembre.
Le
17 novembre, nous serons Gertie Dimbury, Jalil Leclerc, Anna Montmirel et moi-même au musée de rue Almalmaison, qui est le musée de Joséphine de Beauharnais et de Napoléon Bonaparte, qui était leur appartement. Et nous allons faire une lecture autour du rétablissement de l'esclavage en 1802, parce que nous avons été invités à faire quelque chose. Et nous, Napoléon... c'est 1802, hein, c'est pas la campagne de Russie ou je sais pas quoi. Et donc on va mettre en scène, et ça va être surtout autour d'Haïti, parce qu'en fait c'est le portrait de David, de Napoléon qui franchit les Alpes, et en face il y aura une peinture de Reinde Wiley, qui est ce peintre africain-américain qui s'est peint dans la même posture sur le cheval comme ça, mais en face c'est lui habillé comme aujourd'hui, quoi. Et donc ces deux portraits seront face à face dans l'entrée, et nous on fera notre petite perturbation à partir de textes autour de Toussaint Louverture, essentiellement, enfin, la révolution d'Haïti, le rétablissement de l'esclavage et la révolution d'Haïti. Donc, c'était juste pour. Parce que, comme on a parlé de ça, je fais une petite promotion. Et puis, certainement, parce que ça va être très amusant, parce que c'est quand même un musée où il y a une association très importante qui s'appelle Les Amis de l'Empereur. Et qui, apparaît-il, ont fait goulpe quand ils ont appris que...
Bien que le public aussi soit diversifié.
Le rétablissement de l'esclavage, mais vous pensez, mais oui, mais c'est vraiment, ça a été important.
Et puis avec François...
Les questions, absolument. Et donc, voilà, donc ça sera libre, hein, venez. Ça sera le samedi après-midi et le dimanche après-midi, donc le 16 et le 17 novembre. Et c'est à rue Almalmaison, donc c'est. Mais on va, je crois qu'on va s'amuser. Je crois qu'on va s'amuser parce que ça va un peu perturber, je crois, l'ambiance, hein, parce que et c'est très très l'Empire. C'est vraiment très 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 napoléonien. On sort. Alors faites attention justement aux fresques, mais mon Dieu, les bas-reliefs. Regardez-les plus attentivement que vous ne les avez regardés jusqu'à présent. regardez vraiment, effectivement, comment les femmes, les hommes. Et alors vraiment, donc à droite, c'est à droite. Et alors je vous dis ça parce que j'ai entendu une guide tout à l'heure qui passait, qui disait, ben, si vous sortez, à droite, ça sera l'Afrique, à gauche, ça sera l'Asie. Comme si c'était donc une description de continent. Voilà. Et on se retrouve dehors et puis on parlera du monument en face. On arrive. Mais ce que je dis, c'est que on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'on fait quand on a un monument pareil, qui est quand même énorme, qui est le dernier monument de cette histoire, hein. Parce que vous avez appris les monuments en face, mais je dis aussi du bâtiment, de l'ampleur du bâtiment, c'est aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un monument comme ça?
La question, est-ce qu'on doit réinvestir et changer le discours en... Parce que c'est aussi une partie de l'histoire qu'il ne faut pas en discuter. En France, on a quand même un problème de déni, de visibilisation.
Je vais vous montrer un autre. Et qui s'effondre, on en monte un autre avec nos artistes.
Ça, c'est important. Parce que j'ai remarqué quand même dans l'exposition, même la salle où il y avait des artistes contemporains, j'ai quand même regardé sur Google.
Justement, j'ai remarqué aussi, je me suis dit, en fait, aux contemporains, là, on va montrer, on va même pas trouver des artistes contemporains racisés, en fait. Ouais. Quoi. En plus, cette pièce, j'ai pas compris pourquoi elle était là, franchement. J'ai pas compris.
Ça peut être difficile pour les artistes contemporains d'avoir investi dans ça.
Bien sûr, mais.
Donc, je garderai ça comme une archive.
Ouais.
C'est-à-dire, quand vous allez aux archives, vous avez un document, vous écrivez pas sur le côté. Je veux dire, un acte de vente, c'est un acte. Je veux dire, après, vous le lisez d'une certaine manière, c'est la lecture. Moi, j'en aurais fait. Le bâtiment aurait été. L'exposition.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est voilà, des visites guidées à travers. Ben voilà,
ouais. L'aspect médiation est quand même important. En fait, pour moi, tant qu'à avoir, c'est un peu comme tous ces monuments qui existent encore, d'esclavagistes et tout, soit les détruire, mais si on les garde, soit accompagné quand même d'un discours, pas juste les laisser comme si c'était une célébration, parce que vu le côté monumental, vu le truc.
Non, mais je me dis, j'ai entendu une guide tout à l'heure qui est dans les journées du patrimoine, elle passait, elle disait quand vous sortirez, vous verrez à gauche l'Asie, à droite l'Afrique. C'est tout ce qu'elle avait à dire. Quoi. Je veux dire, donc les gens disent, ah bah tiens, c'est la. Je veux dire, on le voit, on voit que ça. Et c'est vrai que le bâtiment, vous avez les deux bureaux, là, qu'on n'a pas tellement regardé, qui sont aussi complètement des représentations. Puis alors, c'est des bois qui viennent d'Afrique, des bois qui viennent d'Asie, donc il y a aussi tout le côté. Les portes monumentales sont des portes en acajou, enfin c'est incroyable. Vous avez les fresques qu'on a vues dans la salle où on était. Vous avez, donc le monument lui-même, vous pouvez passer 2 heures. À commenter le monument en tant que tel. Et puis pourquoi il y a un aquarium aussi immense, qui est aussi vieux que le bâtiment. Hein.
Et ça, c'est le problème en général quand on parle des anciens pays colonisés, c'est qu'on va toujours trouver le moyen de faire un aquarium, une tente, un chameau.
Non, mais l'aquarium, il est là depuis longtemps.
Oui, mais justement, non, oui.
Parce que ça faisait partie de l'exotisme. Au moment de l'exposition coloniale. La question, comme vous le savez, je veux dire, il y avait des reconstitutions entières de Tombouctou, des temples d'Angkor. Toutes les colonies étaient représentées, chacun par un pavillon, avec des jeunes femmes qui faisaient goûter le sucre, le café, ou je ne sais pas quoi. Il y avait des danseuses, cambodgiennes qui étaient venues. Enfin, je veux dire, c'était un incroyable spectacle, quoi. C'était un incroyable spectacle. Et donc, là-dedans, il y avait les animaux. Et il y avait des plantes aussi. Et parmi les animaux, eh bien, il y avait les poissons. Si vous voulez, c'était en fait les animaux contribuent à la représentation de la France coloniale. Ça veut dire que la France étend son domaine sur les poissons, les éléphants, les oiseaux. Voyez.
C'est particulier aujourd'hui d'avoir dans le musée de l'immigration quand même des animaux finalement. Enfin, d'avoir,
non, c'est plutôt. On pourrait se poser pourquoi le musée de l'immigration a été mis ici.
Voilà, oui, enfin, c'est exactement
parce
ça.
Parce que sinon, ce que je dis, c'est que le bâtiment lui-même avec l'aquarium pourrait constituer une visite. Pourquoi déjà le musée des colonies, quand il se constitue, il a un aquarium?
Au public qui va se dire, ah ben tiens, je vais à la cité de l'immigration, ah ben il y a un aquarium, oh c'est cool, il y a des petits poissons. Et du coup, tu passes à côté d'une histoire de l'esclavagisme de 5 siècles. Et c'est ça qui est dramatique dans la manière dont on parle aujourd'hui de l'histoire tout court.
Non mais moi, ma question, je réponds, c'est devrait-il y avoir un musée de l'immigration dans ce bâtiment?
Dans ce bâtiment, non.
Voilà.
Non.
Je veux dire, parce que c'est impossible après. Je veux dire, vous pourrez faire, pour moi, Pour moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes dans un bâtiment qui est déjà et dit quelque chose, propose un récit avant même que vous entriez. Donc après, vous pouvez peut-être, je ne sais pas, moi c'est comme si la maison, elle est déjà... vous entrez dans la maison et vous n'avez rien, vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez rien changer. La maison a été faite et on vous dit, c'est là que sera le salon, c'est là que sera le docteur et c'est comme ça. Et, vous, et donc après, débrouillez-vous.
Tu décidé bon. Quand que c'était mis ici récemment là.
Non, non, 2007, il est ouvert 2007. En 2007 le musée d'immigration. La décision est bien, plus, est bien avant parce qu'en fait c'est sous la poussée des mouvements sociaux, des mouvements d'immigrés, que l'histoire de l'immigration ne peut pas rester comme ça. Ça, c'est vraiment... Donc ça, si vous voulez, c'est toujours des mouvements qui partent d'en bas, hein, qui sont toujours des mouvements de contestation. Et alors... Ah oui, oui, non, non, non. Non, non, ah oui, c'est des associations d'immigrés qui ont vraiment poussé. Et il y a eu vraiment des choses, des associations qui faisaient bien leur travail, on peut dire. Mais alors après, si vous voulez, la question, c'est que... En France, dès qu'on fait un musée, ce sont les professionnels du musée qui rentrent, déjà. Donc, de toute façon, vous pouvez apporter tous les objets que vous voulez. Ils seront mis de telle ou telle manière. Si vous regardez l'exposition permanente, il y a une chose qui est vraiment... c'est tout d'un coup, il y a des choses d'artistes contemporains qui tombent. Là. Pourquoi ? Pourquoi il y a ça, tout d'un coup ? C'est comme si, justement, chaque fois que c'est difficile, hop, on met un artiste contemporain, parce que...
Au lieu de répondre à la question... adressé. Voilà. Enfin, ça voilà. Reste très en surface voilà. Et... Les sujets sont jamais pleinement adressés.
Non. Et puis il y a de la photo artistique à côté de la photo documentaire. Pourquoi pas ? C'est pas le mélange des genres qui me gêne, c'est la manière dont c'est fait qui fait que du coup, il n'y a pas de. On comprend rien, quoi. Parce que le mélange des genres, c'est pas en ça que c'est gênant. Qu'est-ce que ce mélange des genres pousse à dire, quoi. Et en fait, en général, pour que justement ça reste confus.
En fait, ce qui était là avant dans le musée, ça n'a pas été justement. Enfin, le musée n'a pas été dépossédé de ces objets pour qu'ils aillent vers Branly.
Il y avait une partie des arts de l'Océanie, de l'Afrique et de l'Océanie, une partie qui était ici. Mais ce qui est à Branly, c'est une partie de ce qui était ici, une partie de ce qui était au musée des arts et traditions populaires, une partie, en fait, je veux dire, Branly a raflé tout ce qu'il y avait dans plusieurs endroits, tout ce qui était. Asie, Océanie, Afrique a été raflé par... Il y a quand même 90 000 objets à Branly. Hein.
Mais ils doivent restituer.
C'est la même question pour moi, que ce soit à Branly ou ici, finalement, ce que je suis en train de faire, ce que je fais toujours quand il y a une exposition qui est censée parler d'immigration ou de racisme, c'est de regarder qui sont les commissaires de l'expo. Est-ce qu'ils sont racisés ou pas? Pour l'instant, j'ai pas fini ma recherche, mais pour l'instant, ils sont blancs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi qui est mais dans tous les musées. Enfin, moi-même, j'ai travaillé dans les musées. Les postes de direction, les postes de commissaire, de conservateurs, c'est quasiment tous des personnes formées aux mêmes écoles, avec les mêmes discours, la même vision qui n'est pas du tout déconstruite. Après, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on peut vraiment attendre d'avoir des expositions bien venant de ces mêmes personnes? Enfin...
Mais moi, je pose la question dès le départ. C'est quel est le bâtiment dans lequel vous mettez votre exposition?
C'est ça, est-ce qu'on veut...
Est-ce que le bâtiment n'induit pas déjà? Je veux dire, qu'Ébranly, il est fait d'une manière, vous ne pouvez pas vous en sortir. L'architecture, elle est comme ça, c'est tout. Il fait noir, on voit rien, on marche à tâtons, on se casse la figure. Voilà, c'est, je veux dire, donc, même si on change toute l'équipe, je veux dire, de nouveau, c'est le cadre a été posé. Et après, on vous demande de vous mettre dans le cadre. Mais est-ce qu'on m'a demandé mon avis quand on vous a fait le cadre, là ?
Est-ce qu'on peut décoloniser en utilisant les outils des magistrats ?
En tout cas, voilà. Donc ça, c'est... Mais pour moi, c'est un bâtiment, il peut être intéressant parce qu'il est quand même, je le redis, hein, c'est le seul bâtiment qui existe avec des choses aussi monumentales en France, d'un moment très précis, 1931, de cette exposition internationale coloniale qui sera énorme, où viendront des millions de Français.
Ça peut être un bon point de départ. On est au cœur de l'ancienne exposition coloniale. On parle de déconstruction. Du coup, si on parle d'une déconstruction et qu'on va contextualiser tout ce qu'on voit dans l'histoire coloniale, on peut partir
Mais que, quand vous dites on, c'est qui?
Ah, ben celui qui veut faire le tour.
Non, mais pour l'instant, il y a une direction
parce que,
et elle continue à faire.
Ce que la jeune fille a dit, le monde de l'histoire de l'art, il est complètement, je ne sais pas du coup comment le terme est utilisé, catégorisé. Des gens qui travaillent sur le monde arabe, qui ne savent pas parler un mot arabe, ou sur l'Afrique, qui n'ont jamais mis les.
Non, mais on commence par exemple aujourd'hui, oui. Hein, on vient, il y a déjà toute année et moi.
Il y a
toute année et moi. Dans les personnes qui sont là, rien que de nous voir, d'accord ? Ça, il y a une émotion là, il y a une émotion, il y a une émotion, il y a une fébrilité. On sent. Donc voilà. Alors qu'on est sages comme des images, on fait voilà, etc. Donc ça dit quand même quelque chose. Voilà. Donc c'est pas on devrait faire ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on veut faire ? Et donc, par exemple, pour nous, de faire cette visite aujourd'hui, c'était déjà de venir. C'est un lieu public, on a le droit de venir, on fait ce qu'on veut. Et donc, d'essayer justement de regarder beaucoup plus soigneusement le bâtiment lui-même.
Si vous voulez, à ce propos, j'ai scanné en 3D toute la façade pour pouvoir enlever les poteaux. Et donc, c'est consultable sur Internet. Si vous voulez, je peux vous donner le...
Bien sûr.
L'objet, j'ai scanné la grande salle et celle-ci pour que du coup on peut chez soi
le. Sur la page de Décoller les arts.
Oui, on peut. Hein, en gros, on peut le consulter, on peut zoomer, tourner et la voir. Ouais. Bon. Ce qui est impossible
on
parce que.
On peut voir coup, l'Afrique, comme disent les guides. Ouais.
Voilà. Ils l'ont fermé. Ouais. Ils vont pas nous virer, mais ça va.
Alors vous voyez là chaque fois c'est on a les ports français, hein. Là-bas c'était Marseille, là c'est Bordeaux, Saint-Croix, voilà le Havre. Donc on a les ports. Les ports ont été évidemment fondamentaux pour l'Empire colonial. Et en fait le ministère des colonies, c'est le ministère de la Marine qui a longtemps été le ministère des colonies. Il n'y avait pas de ministère des colonies, c'était comme ça. C'était le ministère de la Marine qui s'occupait des colonies. Parce que la marine a été évidemment essentielle. Alors. Donc, vous verrez les noms, là, par exemple, il y a Gabon, tout ça, enfin, il y a des noms de pays. Et puis, de nouveau, c'est au travail, au travail, au travail. Hein. Et alors, vous voyez que par rapport aux Asiatiques, les femmes sont poitrine nue.
Oui.
Et les hommes aussi. Donc, il y a plus de nudité, mais en même temps, il y a plus de, comment dire, de mouvement, presque, par rapport aux silhouettes asiatiques.
Ça donne même l'impression que même le corps, du coup, lui-même, en fait, ouais. est plus...
Et
il n'est pas marqué, mais il pourrait y avoir marqué corps, en fait, aussi, dans les matières.
Donc là, on voit, ils sont à la pêche, ils sont à la chasse. Et il y a chaque fois toutes les richesses, cola, là, il y a Côte d'Ivoire, bois. Donc on voit vraiment... Le sculpteur a vraiment fait son travail, on peut dire, de recherche, à la fois les pays, les ressources, les personnes, pour les représenter. Donc à la fois, c'est ce que je disais, c'est où le nom est mis, cola, ou alors il y a la représentation de la plante ou de eux-mêmes. Hein. Là, par exemple, bois, il y a écrit bois, mais on voit aussi les hommes casser les... Alors là, on voit, de nouveau, c'est ce que je vous ai dit, il y a le mélange, les singes au milieu, avec les éléphants, les oiseaux, les êtres humains, tout est ensemble. Ça, c'est vraiment un style qui n'était pas du tout français. Hein. Ça, c'est la pure appropriation culturelle. Alors là, vous voyez, là, trois femmes très en position... totalement inspiré des cartes postales, mais comme je vous dis, le sculpteur, il y a des photos de lui où on le voit avec des femmes noires faisant modèle, qui sont nues et dans son atelier. Donc, j'ai pas vu de photos de lui avec des Asiatiques comme modèle vivant, je veux dire, mais j'ai vu des photos de lui avec des femmes noires nues, donc il s'inspirait pour faire ses bas-reliefs. Je pense que pour les autres, il a dû beaucoup utiliser des représentations. La photographie, puisqu'il y avait déjà de la photographie. Des dessins aussi. Alors c'est là que nous avons nos, ce que Gerti a décrit. Et vous voyez donc, c'est un peu mélangé là. Hein. Il y a un peu de tout, quoi. Il y a le canal du Mozambique, il y a Madagascar, enfin tout ça c'est un peu ouf, 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 tout un peu en même temps, quoi. Il y a un côté où c'est l'outre-mer, on pourrait dire, hein. C'est l'outre-mer colonial. Alors, où elle est, Marie Galante? Je la vois. Ah oui, là-haut. Voilà. Elle est là-haut, la petite Marie Galante, avec ses feuilles et sa petite jupette. Voilà. Vanille, canne à sucre, alors là on voit, ça c'est Madagascar et La Réunion. Mais vous voyez, eux ils sont habillés, hein, les gens d'outre-mer là, quand on voit, sauf effectivement Marie Galante, alors que là, Mozambique, ils sont de nouveau quand même à moitié nus. Donc on voit le côté, la séparation qui est faite entre les vieilles, ce que la France appelait les vieilles colonies, et qui avaient été les colonies esclavagistes, et les colonies post-esclavagistes. Il y a un côté d'affirmation de la France, côté français de ce qu'ils ont appelé les vieilles colonies. Et que chacun de ces territoires avait son pavillon. Chacun de ces territoires. Il y avait un pavillon Guadeloupe, un pavillon Réunion, un pavillon Martinique, un pavillon... Chacun, mais des vrais pavillons, avec les richesses que ces colonies produisaient. Il y avait pour la Martinique, il y avait un orchestre, il faisait de la musique. La Réunion, il y avait des jeunes femmes qui servaient le café, la vanille. Enfin, de toute façon, voilà, c'était une vraie mise en scène, quoi. C'était pas simplement quelques objets.
Pendant
l'exposition coloniale. Ouais. On marchait et vous marchiez dans des allées et il y avait les maisons, des maisons. Hein. C'était pas, quand je dis des. C'était vraiment des pavillons, c'est pas des stands.
Est-ce que c'était pour l'exposition de 1931 que la chanson Tifferanée a été créée justement? Parce que je sais qu'elle a été inventée justement pour une exposition coloniale, mais...
C'est ce qu'on dit, mais j'ai jamais trouvé de preuves vraiment. Mais enfin, c'était surtout les orchestres martiniquais. D'accord. Qui avaient plus de okay. Succès à l'époque. Mais il y avait des balles dans tous les pavillons. Par contre, pour le Cambodge, c'était les danseuses cambodgiennes qui faisaient, qui exhibaient quelque chose, qui exhibaient les danses, qui ont énormément fasciné les artistes. Hein. Énormément. Vous avez énormément de dessins de Rodin qui est absolument fasciné par les danseuses cambodgiennes. Je veux dire, il y a un côté où les artistes, ils n'en reviennent pas. Quoi. Et c'est les premières troupes qui viennent et qui performent. Et sinon, les balles, mais ce qu'on appelait le bal antillais, il existait déjà hein, dans Paris. Hein. Donc il y avait un côté qui était plus familier. Et sinon, il y avait les spectacles style zoo humain hein, dans l'exposition. Quoi. Mais il y avait aussi des spectacles qui se voulaient plus Palais de Chaillot. Et c'était immense, quoi. C'était immense. On aurait voulu pouvoir vous emmener au nord du parc de Vincennes où il y a quelques restes, quelques monuments encore qui restent, notamment les temples bouddhiques qu'on voit. Et puis hein, le pavillon de la Réunion, mais qui tombe complètement en ruine, donc on voit juste un morceau de truc. Et il y a encore quelques statues qui sont couchées. On voit encore un pont qui se veut, un pont asiatique. Voilà.
À détruire.
On va détruire les temples. Ils sont utilisés hein, aujourd'hui par les communautés vietnamiennes. Il faut parler avec les personnes que ça concerne. Il ne faut pas nous dire, je sais pas quoi, il faudrait voir. Je veux dire, ça a été réinvesti par des communautés vietnamiennes qui font certaines de leurs cérémonies pour le nouvel an vietnamien, là. Donc, il faudrait parler avec ces personnes. Moi, je pense que la question, ce serait quelle est l'histoire à dire, quoi, je veux dire, mais... quelle est l'histoire à dire? Parce que il y a des choses qu'il faut peut-être enlever, mais il y a des choses qu'on peut aussi garder tant que l'éducation est faite autour du monument. Par contre, le monument en face, moi, je serais... Bon, on va en parler. On va en parler, là, il pleut un peu moins, on va y aller. Alors, Avant qu'on passe au monument marchand dont on va... la déesse, là, qui est Athéna, qui représente la France, qui représentait la France, a été en haut des marches qui menaient au musée. En fait, elle était devant la porte. Donc, quand on entrait, on avait l'image de la grande déesse qui représentait, voilà, la France, apportant paix, prospérité. Et après, on entrait. Et là, ils l'ont déplacée, ils l'ont mise là. Donc, elle est un peu toute seule et du coup, personne ne comprend tellement ce qu'elle fait là, ou nous qui elle est, pourquoi elle est là. Mais en fait, elle est liée à la question coloniale. Bon, comme ça, vous allez m'entendre. Hein. Donc, ça, c'est le monument marchand. Marchand, alors le monument...
Merci.
Merci, 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 merci.
Merci.
Le monument, vous voyez, donc c'est des 1, 2, 3, 4, 5, 6 hommes blancs. Hein. Donc celui-là, il les regarde partir, celui-là, il est en train de soigner quelqu'un. Et puis des porteurs, hein. Essentiellement des porteurs. Et puis un ou deux, ce qu'on appelait des tirailleurs. Alors ça, ça représente donc ces cas... la construction du monument, en fait, je vais vous parler d'abord de la construction du monument. En 1934, il y a un comité, dont l'un des présidents était le maréchal Pétain, d'ailleurs, qui demande la construction de ce monument, hein, que l'argent ouvre une souscription pour que le monument soit construit. En 1935, le conseil municipal de Paris prend en considération la demande du comité pour ériger le monument en face du musée des colonies, sur l'avenue Daumesnil, hein, parce qu'on ne savait pas où le mettre, et donc la décision est prise de le mettre là. Et l'inauguration devait avoir lieu pour le 36e anniversaire de l'arrivée du colonel Marchand à Fachoda. Et puis alors en décembre de 1935, le conseil municipal dit d'accord, on va construire le monument ici. En 1936, une commande est passée à un sculpteur qui s'appelle Baudry. En 1937, en fait, on demande de transférer aux Gloire, le transfert de aux Gloire coloniales, c'est-à-dire qu'il y avait des monuments, pour le mettre ici, en fait ici. 1940, le projet est ralenti à cause de la guerre. En 1946, il y a une pétition qui réclame l'achèvement du monument. Alors le monument, en fait, il y avait une statue de Marchand juste devant, là, qui était déjà dans son atelier, qui était faite. Mais il faut encore un mât et un bouclier, bon, qu'on ne voit plus. Et il n'y a plus d'argent. Alors, tout le monde dit qu'il faut de l'argent, tout ça. Puis finalement, en 1947, la ville de Paris décide de prendre les dernières dépenses à sa charge. Et en 49, le 1er juillet, le monument est placé ici. En 1978 et 1982, le monument sera recouvert de peinture rouge en protestation. En 1983, il sera dynamité par des militants anticolonialistes. Ouais. Et donc la statue va partir, hein, la statue disparaît. Et en 2012, donc, l'opposition de droite du 12e arrondissement émet le vœu qu'on ramène la sculpture, quoi. On reconstruit sa sculpture de Marchand qui a été détruite par les anticolonialistes. Et alors je vous lis parce que ça vaut le coup, parce que vous verrez après avec la suite. Considérant que l'exposition du commandant Jean-Baptiste Marchand qui a traversé l'Afrique du Congo au Nil de 1896 à 1899 fut une réelle expédition et qu'elle fait partie intégrante de l'histoire des France. Les ambitions de cette mission ne peuvent plus se résumer seulement à des fins impérialistes ou mercantiles. Elles furent aussi motivées par un élan humanitaire, en apportant notamment de la connaissance à des populations ne bénéficiant pas de moyens techniques, éducatifs ou encore médicaux, comme par exemple les nombreux soins dispensés par le docteur Émilie auprès des nombreuses tribus rencontrées. Considérant que le retour en France des explorateurs fut triomphal et que cette mission fut jalonnée des hauts faits de courage et participa au renforcement de l'unité nationale, considérant que cette mission, appelée Mission Marchand, impulsa aussi une nouvelle donne dans le rapport de force franco-britannique et servit de socle à une nouvelle diplomatie. Considérant que la statue du commandant Marchand n'a jamais été restaurée après l'attentat anticolonialiste de 1983 et qu'elle est laissée à l'abandon dans un entrepôt, Valéry Montandon et les élus du groupe UMP, je sais pas quoi, émettent le vœu que la ville de Paris restaure la statue du commandant Marchand et qu'un emplacement lui soit attribué. Bon, le maire avait refusé à l'époque, hein. Et en 2016, le monument a été de nouveau recouvert de graffitis qui ont été presque aussitôt effacés, qui disaient « On chie sur votre nostalgie coloniale ouais !» et « À bas l'état d'urgence
oui. ».
Alors, qui était Marchand? Marchand, c'est un soldat, hein, c'est un colonel qui s'est battu vraiment pour la supériorité de la France. Il a participé à une campagne coloniale de pénétration du Soudan, hein, c'est ce qu'on a, l'actuel Mali. Des campagnes contre les grands chefs résistants Amadou et Samori. Il a participé à la prise de Coudian, hein. Il a participé à la prise de Ségou et à celle d'une autre ville dans le nord du Mali. Il a toujours déclaré qu'il menait une politique négrophile dans toute sa prestigieuse pureté. Après, quand il reviendra d'Afrique, il va participer à la répression de la révolte des boxers en Chine, c'est-à-dire de nouveau, enfin, le mec, il est vraiment... Hein, c'est ce qu'il veut. Et il sera décoré et redécoré. Bon, alors, la mission en question. Le traité de Berlin, comme vous le savez, ouvre l'Afrique aux puissances coloniales, hein, qui renforcent leur pénétration en multipliant des expéditions, des missions d'exploration et de conquête au nom du droit du premier occupant. Donc, c'est le premier qui arrive quelque part, pourra dire, voilà. Donc, il y a beaucoup de rivalité entre les Anglais, surtout, et les Français. Il y a un peu les Allemands, un peu les Belges, mais c'est surtout les Anglais. Et ces expéditions sont attaquées par les Africains, très souvent, qui ont compris qu'en fait, qu'elles n'étaient que l'avant-garde des conquêtes, des armées. Hein. Et donc, par exemple, en 1881, il y a l'assassinat par des Touaregs d'un colonel, le colonel Flatteuse, et ensuite d'un autre colonel en 1891, Crumpel, et d'autres capitaines. Donc, il y a des révoltes, ces expéditions ne se mènent pas au niveau humanitaire. Et la région du Congo est très importante pour la France. Elle est explorée par Savonien de Brazza, qui écrit, je cite, « Les peuples africains restant dans la barbarie, chaque tribu vivant à l'écart de sa voisine, et pour laquelle elle est toujours une voisine incommode, quand elle n'est pas un ennemi dangereux, et que dans la tribu, les hommes, asservis à un potentat qui d'un geste fait tomber les têtes, n'ont aucune idée de la liberté, de la dignité humaine, ne songeant qu'à satisfaire leurs appétits, et n'ayant point d'autre idéal. » Donc il faut qu'ils signent des traités, dit-il, dont l'intérêt, et je cite de nouveau Savonien de Brazza, est de libérer les peuples, de les arracher à la servitude, de les donner à la France, avec comme promesse que la France, nation juste et libérale, ne les soumettrait à aucun joug. Donc ça c'est Savonien de Brazza, il est dans le Congo, et en 1892, un groupe qui s'appelle les Baangala se soulève contre Savonien de Brazza sous la direction d'un grand chef qui s'appelait Mabalia Mananga, qui était un très grand guerrier et qui était un chef suprême de tribu qui était dans cette région. Et la rébellion qu'il commence va se répandre dans toute la région. Il y a plein de groupes qui rejoignent. Et Savonien de Brazza, lui, il est en déroute, il ne sait plus quoi faire. Il part en abandonnant 700 tonnes de colis derrière lui, hein, parce que c'était des gens qui partaient avec des tonnes de colis. Et en fait, les Africains continuent à attaquer. Et il y a un administrateur qui est en poste dans une des villes qui est tué le 18 novembre 1892. Et du coup, Marchand, qui était déjà là, hein, le colonel Marchand, Il propose de mater la rébellion. Il va obtenir de Brazza les pleins pouvoirs, civils et militaires, et il va décréter un état de siège en 1896 dans toute la région. Donc il est déjà dans sa mission. Il va rester durant 6 mois dans ce pays. Et il s'agit, dit-il, il écrit hein, dans ses lettres, de montrer à tous ces gens-là que c'en est fini de rire. Le chef insurgé Mabalia Kinké est lâchement assassiné en 1896, alors qu'il venait négocier la libération de sa famille qui avait été prise en otage au matin par un autre commandant à côté de qui était un ami de Marchand et qui pille et incendie tout le village. Marchand et toute son équipe vont traquer les autres chefs avec des rapes, des incendies, il fait brûler les villages, il fait brûler les cases, il fait brûler les récoltes et il tue le neveu de Mabalia Nanga. Lui, il dirigeait ses assauts du fond d'une grotte, hein, c'était des grottes dans le coin, et trahi par quelqu'un d'autre. Il est assiégé par des troupes de marchands, il refuse de capituler, il résiste farouchement, il blesse des tirailleurs. Et alors, Marchand et un autre commandant dynamitent la caverne et enfument. Vous avez les enfumades qu'on retrouvera pendant la guerre d'Algérie. Vous mettez le feu devant la grotte, vous enfumez les gens sortent, vous les tuez. C'est une stratégie coloniale bien connue. Donc le 23 octobre 1896, Mabalia Nanga il meurt avec sa famille et ses guerriers, asphyxié, enseveli sous les gravats. Sa tête sera tranchée par Marchand et exhibée tout le long de la piste de caravane par l'expédition française. Donc voilà Marchand. Et Marchand raconte dans une lettre du 17 novembre 1896, connaissant par rapport d'espions le refuge de Mabalia Nanga, le meurtrier de Laval, je donnais l'ordre d'attaquer le 23 au matin. L'affaire fut plus sérieuse que je ne l'avais supposé, et à un moment j'ai eu de l'inquiétude. Réfugié avec ses derniers partisans dans une vaste grotte naturelle, creusée dans une colline calcaire, il nous a tenu tête pendant 3 heures et m'a mis à terre 6 tirailleurs. Il a fallu que je le fasse enfumer. Il a perdu avec toute sa famille ses derniers partisans. J'ai fait prendre sa tête, qui a été déposée à Combat près de la tente. Cinq photographies ont été prises. Les autres résistants sont, il y a d'autres résistants qui sont réfugiés, sont livrés, ils sont fusillés, il y a encore, ils sont absolument, c'est vraiment le dernier assaut, c'est brûle tous les villages, enfin c'est vraiment le pillage, donc c'est vraiment la guerre totale, comme on dit, hein, pour appeler ça. Et en fait, donc, ces expéditions, c'est une expédition impérialiste, hein, qui est vraiment. Et il était très important de tracer une route entre le Congo et Djibouti, de passer du Congo au Nil. C'est pour ça que ça s'appelle Congo-Nil, cette expédition. Hein. Et alors, d'ailleurs, parmi les officiers de Mangin, il y avait, de Marchand, il y avait Mangin, qui est connu pour avoir fait la Force Noire ensuite. C'est lui qui a constitué les grands bataillons de tirailleurs sénégalais. Et alors, l'expédition, par exemple, ils utilisent un bateau à vapeur qui s'appelait le Féderbe, autre grand colonial, pour remonter les rivières. Lorsqu'elles ne sont plus navigables, le bateau est démonté et porté à dos d'hommes, d'Africains, qui doivent creuser un chemin dans la forêt et pousser la chaudière qui pèse 2 tonnes sur des billets de bois, pendant qu'ils coupent aussi la route dans la brousse et dans la jungle. Et d'autres portent la coque dans un chariot spécialement construit à cet usage. Autour de 10 000 Africains seront recrutés de force au gré des étapes, comme porteurs, piroguiers et pagayeurs. Le taux de mortalité est estimé à 40% sur certains tronçons. On ne connaît pas le nombre exact de morts. Les officiers rémunèrent les porteurs pagayés en cuillères remplies de perles de Venise. Ces porteurs doivent transporter 600 tonnes de matériel, soit 4 000 euros répartis en charge de 30 kg chacune qu'ils doivent porter, avec des dizaines de milliers de nattes de textiles, de perles pour les chefs africains, et d'alcool et de foie gras pour les officiers français. Ceux qui refusent ou désertent sont tués, leurs villages sont brûlés, leurs récoltes détruites, leur bétail abattu. Le capitaine Baratier va dire à propos d'une des tribus, qui s'appelle les Laongo. Le Laongo est remarquable en un seul point, mais sur ce point, il éclipse tous les autres noirs. Il est un porteur merveilleux. C'est grâce à lui que la colonie du Congo a pu exister et se maintenir jusqu'à ses dernières années. Les Laongo sont nés porteurs, ils sont certainement venus au monde avec une charge sur la tête. Et donc le recrutement est fait de force, c'est-à-dire c'est du travail forcé. Hein. Alors il y a un autre officier qui raconte. Je ne me suis guère amusé avec ces 200 porteurs que nous avions pris de force et qui cherchaient à s'échapper à la moindre occasion. On avait beau fusiller ou pendre ceux qu'on attrapait, les autres essayaient quand même et quelqu'un réussissait tout le temps. Alors les charges seraient restées en arrière si je n'avais pas eu la patience d'aller dans les villages voisins avec 4 ou 5 tirailleurs pour ramasser les hommes ou les femmes qu'on y trouvait. On leur plaçait 30 kilos sur la tête et je continuais la route avec toutes les charges parfois. Tout le monde abandonnait le village. Je mettais le feu à quelques cases. Généralement, le moyen était bon. Tout le monde revenait. On faisait attacher le chef qui était obligé de donner des esclaves pour enlever les charges. D'autres fois, personne ne se présentait. Nous faisions enlever tout ce qui était dans les cases ou les greniers et nous le distribuions au noir du convoi. La nuit, on surveillait tout ce monde-là, mais ils s'enfuyaient tous à la fois, et il était difficile de tuer tout le monde. Aussi, les viols des femmes ont été systématiques tout au long de la marche, tout au long de l'expédition. Les officiers réclamaient que des jeunes filles, même de jeunes filles pubères de 12 ans, soient amenées à leur chambre tous les soirs, chacune des différentes, et plusieurs parfois. Elles étaient appelées femmes calebasses, car quand elles les violaient, ils leur perçaient la calebasse. Donc c'est ça l'expédition, c'est ça le monument, c'est ça. Et donc Marchand, quand il revient, il est accueilli en héros à Marseille et de tout son chemin de Marseille à Paris, il sera accueilli partout en héros. Il y a des journaux entiers, des premières pages pour lui, pour son exposition, pour son héroïsme. Il est considéré comme un des grands héros de l'histoire coloniale française. Donc c'est lui qui est là, c'est ce monument qui est là, c'est à cette personne qui est vraiment un assassin, un meurtrier absolu. Donc, quand on passe là, on le voit encore moins que le musée, que c'est un monument colonial. Enfin, on peut le voir, mais sans savoir que ça repose absolument sur du sang et du meurtre. Il n'y a rien qui le dit. Rien, absolument rien qui ne le dit. Et donc, c'est vraiment là pour moi, ça, oui, ce monument-là, pourrait être de nouveau dynamité. Pas seulement la statue de Marchand, mais tout le truc, ou alors quelque chose. Ou en tout cas, de protester auprès de la mairie du 12e, qui n'a même pas fait mettre un panneau racontant cette histoire, qui n'est pas difficile à trouver, qui peut être reconnue, et qui donc dirait quelque chose de ce qui était un héros français à l'époque. Donc
et pour. En on peut raconter cette histoire sur un très grand drap et venir le déposer là.
Il faut avoir des idées, hein. Il faut, je veux dire, décoloniser, c'est aussi qu'on ait des idées de marquer les choses. Je veux dire, on ne peut pas simplement, parce que là on est là quand on est 20-30, mais tous les jours des gens passent là, sans que ça soit dans toute. C'est voilà, bon. Et alors, il y a eu des lectures qui ont été préparées, justement, et aussi un petit hommage à tous les Africaines et les Africains qui sont morts à cause de cette expédition et qui sont, en fait, finalement, les personnes auxquelles on devrait rendre hommage et non pas à ces meurtriers et ces assassins. Donc, lecture et geste symbolique. Alors, le geste symbolique, on va vous l'expliquer, consiste, en fait, à déposer ici des produits qui ont été les produits que c'est café, sucre, tabac. Le café a été le premier produit vraiment que les colons fait. Et souvent, les premières plantations étaient celles de café, puis après, remplacées massivement par les plantations de sucre. Mais on sait que Haïti, ça a été sucre et café qui a apporté la misère à Haïti, le sucre et le café. Donc, c'est deux produits extrêmement symboliques en relation avec l'histoire coloniale, l'esclavage, le travail forcé, la prédation et l'exploitation, les inégalités. Et le tabac, parce que c'était aussi le produit que les peuples autochtones avaient pour leur rituel et qui a été ensuite absolument pillé et utilisé ici en Europe pour d'autres choses. Donc voilà. Donc la lecture et
Ne sauront-ils jamais cette rancune de mon cœur, à l'œil de ma méfiance ouvert trop tard, ils ont cambriolé l'espace qui était le mien, la coutume, les jours, la vie, la chanson, le rythme, l'effort, le sentier, l'eau, la case, la terre enfumée, grise, la sagesse, les mots, les palabres, les vieux, la cadence, les mains, la mesure, les mains, le piétinement, le sol, la cadence, les mains, la mesure, les mains, le piétinement, le sol. Ils ont cambriolé l'espace qui était le mien. Pour sûr, j'en aurais marre, sans même attendre qu'elles prennent les choses, l'allure d'un camembert bien fait. Alors je vous mettrai des pieds dans le plat, ou bien, tout simplement, la main au collet de tout ce qui m'emmerde en caractère gras. Colonisation, civilisation, assimilation et la suite. En attendant, vous m'entendrez souvent claquer la porte.
Bientôt, je n'aurai pas que danser. Bientôt, je n'aurai pas que chanter. Bientôt, je n'aurai pas que frotter. Bientôt, je n'aurai pas que tremper. Bientôt, je n'aurai pas que danser. Chanter, frotter, tremper, frotter, chanter, danser. Bientôt.
Il est des choses dont j'ai pu n'avoir pas perdu tout souvenir. Et brimade en bambou pour toute mangue tombée durant l'indigestion de tout morceau d'histoire de France. Et flûte de roseau jouant sur les mornes déserts d'esclaves, pendant qu'aux savanes des bœufs sagement ruminent, pendant qu'autour des zombies rôdent, pendant qu'ils éjaculent les patrons d'usines, pendant que le bon nègre allonge sur son grabat 10 à 15 heures d'usine.
D'usine.
Ce sont des textes de Léon Gontran Damas, qui est guyanais, et Gerti, guyanais, et qui faisait partie des auteurs de la négritude.
Moi, je veux bien du café aussi, hein.
Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'on fasse à ce monument? Quelles seraient vos idées?
Faire un texte, moi je pense qu'il faut faire un texte, il faut demander à peut-être faire une pétition et demander à la mairie du 12e un contre-récit qui serait mis en fait à côté pour pouvoir en fait expliquer aussi cette partie,
comme
cette absence.
Les petits panneaux qu'on a à côté des monuments où il y a l'histoire de Paris et une brève sur l'histoire du monument et pourquoi il est là.
L'enlever. Il y a la mairie centrale, pas que la mairie centrale, pour mettre à la place quelque chose qui fait référence aux personnes qui ont souffert et qui soient commémorées comme on le fait là collectivement et non pas cette reconnaissance d'État contre quelqu'un que tu as très bien décrit et c'est vrai qu'il n'y a rien à rajouter quoi, sur l'absence de place de ce monument.
S'il y a des artistes qui font des pochoirs, s'il y a des gens qui font des pochoirs, qui fassent des pochoirs avec le texte que Françoise a écrit, et qu'on le poche ici, je sais pas c'est quoi le verbe, mais on le fout là, avec une flèche montrant ce truc devant lequel tout le monde passe, mais n'a aucune idée de pourquoi. Mais si on le met ici, ils ne verront pas. Si on le met par terre, là où les gens ils marchent, ils verront la flèche, ils diront ça, tourner la tête à droite, et voilà ce que ça dit. Mais c'est pas grave.
Ça, c'est éphémère parce qu'ils vont le nettoyer tout de suite. C'est comme quand on voit l'histoire, c'est-à-dire que par exemple, les anticolonialistes, quand ils ont dynamité le monument, tout de suite, ils ont trouvé de l'argent pour le reconstruire. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de faire quelque chose, une action pérenne, tu vois, qui soit quelque part, qui reste, tu vois, en même temps que cette statue sera là, il faudrait qu'il y ait quelque chose à côté, soit une statue, soit une pancarte, une carte officialisée qui raconte en fait des ignominies de ce barbare.
C'est pas possible. C'est pas exclusif en fait, on peut faire
on peut faire la
partie éphémère parce que ça sera vu par les gens qui passeront et on peut à côté faire cette demande qu'il y ait autre chose à la place de ce discours-là.
Mais l'idée aussi de penser à un autre monument est intéressante parce que ça nous ferait aussi imaginer quel genre de monument on voudrait faire, tu vois. C'est-à-dire que qui ne serait pas la réplique de ça. Et qui pourrait, alors est-ce que ça voudrait dire aussi qu'on pourrait garder celui-là et qu'il y aurait autre chose, c'est-à-dire ici le récit colonial, là le récit des colonies. Je ne sais pas, mais ça fait marcher ça fait marcher.
Moi je pense qu'il faut proposer une autre sculpture. Il faut pas chercher ça à l'enlever parce que ça aussi ça raconte une certaine histoire qui est quand même horrible et du coup si on l'enlève c'est comme une forme d'effacement par rapport à cette histoire horrible et peut-être justement demander à un artiste qui propose, qui fasse une contre-proposition d'un monument décolonial qui sera là pour répondre en fait à ce monument.
Mais moi je suis d'accord avec toi mais je sais pas si ça serait à un artiste pour sortir peut-être aussi de la question de l'artiste qui sera choisi encore par le ministère de la Culture ou la mairie du 12e ou va-t-en savoir qui.
Mais c'est marrant, personne n'a parlé des tableaux de Di Rosa.
Je voulais aussi faire remarquer que le monument, ils ont voulu qu'il soit là, en face du musée. Vous n'en entendez jamais parler quand vous êtes dans le musée. Et le fait que. Il vaut mieux l'effacer de la mémoire pour faire comme si ça n'existait plus. Alors qu'il a été placé ici en toute connaissance de cause, quoi. Et des années après, parce que ça c'est 1931, c'est inauguré en 49. En 49, après la Deuxième Guerre.
Et en 2019, il est toujours là.
En 2019,
c'est un choix aussi de le laisser.
Il ne faut pas oublier, parce que je ne connaissais pas cette date, c'était du temps du Front Populaire quand même, du temps de Léon Blum, qui est dans nos, quand même pour beaucoup un gouvernement socialiste et qui, même s'il y avait des opposants, a quand même laissé faire et entériné le voilà.
C'est la ville, hein, c'est la ville de Paris. Donc il faudrait voir aussi, si vous voulez, c'est vraiment. Il y a une question de la ville qu'il faut aussi qu'on voit. Mais là, par exemple, on a la déesse là, on a le musée là, on a le monument là. Il y a une espèce de triangle là qui est fait. Et alors le monument, on est venu plusieurs fois, moi je vois les gens passer, ils ne regardent pas, ils font pas attention, mais il y a quand même des gens qui viennent voir, qui viennent regarder quand même. Et il est dans la liste quand on regarde Monument de Paris, endroit à visiter, tout ça, il en fait partie hein, en ligne. Donc là, il y a quand même, il est là quoi. C'est pas un monument dont on ne parle pas.
Il est entretenu. Hein.
Il est signalé dans les visites à faire, dans les monuments. Et quand vous lisez aussi là, ce qui se passe dans ce quartier de la Porte Dorée, il est signalé comme endroit qu'on peut venir voir. Mais je pense qu'effectivement, qu'on y pense vraiment, sérieusement, c'est-à-dire simplement pas l'indignation parce qu'on est là, on voit ça, mais qu'est-ce que ça voudrait dire de faire quelque chose?
Ce que tu disais, Claire, un truc super intéressant en fait, c'est de... Enfin, dis-le toi-même parce que je suis pas en train de porter ta voix.
Non, mais je disais qu'en fait, je pense que si on fait quelque chose, soit dans le cadre officiel légal, soit dans l'officialité en fait, du truc, en fait, ça n'aura pas de portée. Je pense qu'il faudrait que ça soit un acte, je sais pas si tu devrais le dire devant les caméras, mais un acte militant, impactant, subversif, et qui donnerait de la médiatisation. Et qui permettrait d'en parler, parce qu'en fait, il n'y a que comme ça que ouais. La mairie se bougera, je pense.
Le dynamitage de 1983, c'est à peine signalé. C'est à peine signalé. Et je n'ai pas pu trouver qui. C'est-à-dire, certainement, si je cherchais plus, mais je pense que je n'avais pas utilisé tout le temps. Mais c'est quand même un geste énorme. C'est un geste énorme, et puis alors je vous dis, encore en 2016, c'est, on chie sur votre nostalgie coloniale, à bas l'état d'urgence. C'est quand même, il y a eu des. Pour beaucoup de militants, ce monument n'est pas sans. C'est pas possible qu'il soit là. Quoi. Donc je pense qu'il y a, en fait, on s'inscrirait dans cette histoire. Quoi. On s'inscrirait dans cette histoire de protestation contre ce.
Donc on ne sait pas du tout qui.
Mais alors spontanément,
des militants anticolonialistes. En 83,
il doit y avoir des archives.
Et par rapport à ce que tu disais. Je trouve que l'idée d'imposer, enfin en tout cas de demander un contre-récit, enfin en tout cas un récit autre, je vois pas en quoi, enfin je vois pas quels arguments ils pourraient opposer à ça en fait. C'est ce qui me paraît le plus. Nous aussi en termes d'arguments derrière, enfin ça fait sens, c'est-à-dire qu'on demande pas de l'enlever, mais qui est aussi le. Bah, l'autre, l'histoire, enfin le fait que voilà.
Enfin, l'histoire, peut-être qu'ils vont tout simplement parler. Révolte, oui, bien attention, hein, parce que c'est rampe, je veux dire, le fait que toutes les missions étaient attaquées. La plupart des missions, je veux dire, les Africains ont très rapidement compris que c'était pas le côté les petites plantes et les petits oiseaux qui intéressaient ces gens-là, mais effectivement de cartographier. La cartographie est extrêmement importante pour l'expansion coloniale, de cartographier comment on passait du Congo-Nil et comment, où on allait tracer la frontière, quel était le morceau du fleuve qui était navigable, quel était le morceau du fleuve qui n'était pas navigable. Tout ça fait partie de l'expansion coloniale. Hein.
Sur la cartographie de l'Algérie. Ouais.
C'est une arme coloniale, la cartographie, c'est une grande arme coloniale. Donc il y a... on peut aussi penser à plusieurs initiatives. L'une n'empêchant pas l'autre, feu de tout bois, comme on dit.
Peut-être en avoir un coup, non ouais.
Mais s'il y a d'autres endroits dans Paris qui ont la même représentation et le même historique, la Pénine, il pourrait avoir lieu à plusieurs endroits en même temps, en fait, aussi. Comme ça, c'est ici, c'est un peu partout dans Paris.
Il y a plusieurs statues, oui, dans Paris. Il existe Place des Invalides, Place Vauban, une statue de Bourgaliani.
Voilà. Donc s'il y avait un happening en même temps, en ligne et en réalité, dans tout Paris, je pense que ça ferait... Moi, c'est ce que je ferais, en tout cas.
Mais celui-là, il est particulier parce que c'est ce masquer la question scientifique. Enfin, mettre en avant la question, l'apparence scientifique. Pour masquer ce que c'était. Et donc là, on voit comment la science a servi l'impérialisme. La science de la cartographie, la science de l'étude des choses. Et ça, c'est toujours caché. Ce qui voudrait dire que même c'est les musées d'histoire naturelle sont aussi dans le coup. Tous les musées, je veux dire. Donc, ça, on tire aussi ce fil-là, vous voyez.
Le jardin des Tuileries, le musée
par exemple. Mais même le musée des Tuileries.